looking. RFI, 7h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Elle a une pression internationale pour un cessez-le-feu à Gaza.
Ça suffit, il faut arrêter le massacre, disent par exemple l'Italie et l'Espagne. Réaction indignée un peu partout sur la planète au lendemain d'une nouvelle journée de bombardement de l'armée israélienne qui annonce étendre encore son opération militaire dans l'enclave. Nous appellerons Michel Paul à Jérusalem dès le début de ce journal.
Un dimanche d'élection en Europe.
Cap à l'Est avec d'abord le second tour de l'élection présidentielle en Roumanie. Deux candidats au coude à coude et une abstention qui explose. Près d'un Roumain sur deux n'a pas voté au premier tour. Premier tour cette fois-ci en Pologne où 13 candidats s'affrontent et deux visions s'opposent, vous l'entendrez. Au Burkina Faso, inauguration hier à Ouagadougou du mausolée Thomas Sankara, un hommage au leader révolutionnaire en présence d'Ousmane Sonko. Le Premier ministre sénégalais a achevé une visite de deux jours dans le pays. Et puis enfin à Rome, Léon XIV se prépare pour sa première grande messe en public. Un public venu massivement des États-Unis, les touristes américains, véritable booster du secteur du luxe en Italie.
La violence doit cesser à Gaza.
Voilà les mots d'Antonio Costa, le président du Conseil européen, alors qu'Israël a annoncé élargir son offensive à Gaza. Hier, les frappes israéliennes ont fait 32 morts, dont 24 dans un camp de déplacés à Khan Younes, dans le sud de l'enclave, selon les médecins locaux. La situation des Palestiniens est plus qu'atroce, plus qu'inhumaine, a réagi Antonio Guterres, le patron de l'ONU, en marge du sommet de la Ligue arabe à Doha. Nous retrouvons en direct de Jérusalem notre correspondant Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Pas d'avancée sur le plan diplomatique, les négociations sont dans la passe et se poursuivent dans un climat tendu au Qatar alors qu'Israël annonce et menace d'étendre encore son opération militaire à Gaza.
Oui absolument, moins d'optimisme en tout cas ce matin. En Israël, on le souligne, il n'y a pas de percée dans les pourparlers qui se déroulent dans la capitale qatarienne et c'est le point important, la délégation israélienne reste sur place à Doha. C'est le résultat direct de pression exercée par les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu par téléphone avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, des contacts entre les deux hommes qui sont quasi quotidiens. Alors à ce stade, les deux parties, Israël et le Hamas, ont accepté de négocier sans condition préalable. En d'autres termes, l'organisation islamiste accepte de parler du plan présenté par Steve Witkoff, 2 mois de trêve et la libération de 10 otages, et les Israéliens, de leur côté, sont prêts à discuter de la fin de la guerre. Mais dans la réalité, tout le monde reste sur ses positions. Israël affirme ne vouloir accepter que des changements mineurs et non substantiels. La seule véritable nouveauté est que les Américains accepteraient de se porter garant auprès du Hamas de l'application de tout accord qui serait obtenu. Et Israël, en attendant, menace toujours de lancer et de renforcer son offensive militaire à Gaza.
Merci beaucoup, Michel Paul, en direct de Jérusalem sur RFI.
Donald Trump va appeler Vladimir Poutine pour mettre fin au bain de sang en Ukraine.
C'est ce qu'écrit le président américain sur son réseau social Truth Social. Donald Trump qui doit parler à son homologue russe lundi matin après des pourparlers infructueux à Istanbul entre Kiev et Moscou. Donald Trump qui dit espérer un cessez-le-feu et qui assure qu'il s'entretiendra ensuite avec Volodymyr Zelensky.
En Europe, les regards sont braqués sur la Roumanie. Ce dimanche, les bureaux de vote ont ouvert.
Ah oui, la Roumanie où se tient le second tour de l'élection présidentielle qui oppose le candidat d'extrême droite, George Simion, au libéral Nicoșor Dan, les deux hommes qui sont au coude à coude dans les sondages et qui tentent de convaincre les abstentionnistes d'aller voter. Car sur les 18 millions d'électeurs que compte le pays, près de la moitié ne se sont pas rendus aux urnes lors du premier tour. Des abstentionnistes complètement désabusés, Muriel Paradon.
Iulia, 37 ans, est dentiste et mère de famille. Elle ne votera pas ce dimanche car elle ne peut choisir, explique-t-elle, entre un candidat qu'elle juge libertaire et l'autre honteux.
Il y en a un qui veut organiser à Bucarest un défilé LGBT pendant la Pentecôte, alors que pour nous c'est une fête religieuse. Et l'autre se ridiculise devant toute l'Europe. Il va sur les plateaux télé et dit représenter les Roumains. Je ne fais confiance à aucun des deux.
Il y a aussi dans les abstentionnistes Alex, chômeur de 52 ans, nostalgique de l'ère communiste.
S'il y avait encore Ceaușescu, j'aurais voté pour lui. À son époque, il y avait de l'ordre. Et puis avec 100 lei, l'équivalent de 20 euros, tu pouvais acheter ton pain, ton lait, tu allais au cinéma et si t'étais malin, tu rentrais avec la monnaie. Maintenant, avec 100 lei, t'as quoi? T'as plus rien.
Chez les plus jeunes, comme Tudor, la vingtaine, certains ne votent pas car ils ne se reconnaissent dans aucun des deux candidats.
C'est toujours les mêmes, on en a marre. On espère qu'une nouvelle génération viendra et qu'on pourra tenter de changer les choses.
chose.
La Roumanie a connu l'ère communiste, puis le règne sans partage durant des décennies de partis politiques accusés de corruption. Pour ce jeune, le changement n'est pas encore à l'ordre du jour. Muriel Paradon, Bucarest, RFI.
Et l'élection présidentielle en Roumanie, sur laquelle nous reviendrons tout au long de la journée. Rendez-vous notamment à 17h10, temps universel pour Géopolitique. Marie-France Chatin délocalise son émission à Bucarest.
Second tour en Roumanie et premier tour en Pologne.
Et l'on vote aussi, élection présidentielle. Là encore, 13 candidats sur la ligne de départ pour succéder à Andrzej Duda. Le maire de Varsovie de la formation libérale plateforme civile, Rafał Trzaskowski et Karol Nawrocki du PiS. Le parti conservateur font figure de favori. Le PiS qui se pose en défenseur des valeurs traditionnelles en Pologne et qui a la faveur de Wanda, habitante de Varsovie. Aucun doute pour elle. Elle votera Karol Nawrocki ce dimanche.
Je vais voter pour lui parce que je suis fidèle aux valeurs que l'on m'a transmises. Dieu, l'honneur et la patrie. C'est comme ça que je veux vivre et pas comme le voudraient les gauchistes d'Europe de l'Ouest. Vous savez, je regarde la télé, je lis les journaux et je sais ce qui se passe là-bas, ce que la gauche libérale a fait de l'Europe. Cette Europe dont nous avons rêvé quand nous l'avons rejointe et qui nous a déçus. Les gens de l'Union européenne, ils vivent dans une bulle et ils ne veulent pas regarder en face leurs propres erreurs. Avec l'immigration hors de contrôle et les militants LGBT qui veulent imposer leurs lois alors qu'ils ne sont qu'une minorité. Nous, on ne les comprend plus, ces Européens. Ils sont devenus, je ne voudrais pas dire anormaux, mais étranges.
Voilà, étrange scrutin à suivre aujourd'hui, donc, des propos recueillis par notre envoyé spécial Daniel Valou.
RFI 5h06 en temps universel et à Ouagadougou où était inauguré hier le mausolée Thomas Sankara.
Un lieu de mémoire et de recueillement en l'honneur du leader de la révolution burkinabé et de ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, n'était pas là. C'est son premier ministre, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, qui a prononcé le discours d'inauguration du mausolée en présence de ses homologues tchadiens et sénégalais. Ousmane Sonko, qui a achevé une visite de 2 jours au Burkina Faso, où il a par ailleurs abordé les questions de la coopération économique et sécuritaire avec les autorités burkinabées, après avoir donc assisté à cette cérémonie en hommage à Thomas Sankara. Esdras Dikoumena.
21 coups de canon en hommage au capitaine Thomas Sankara et ses compagnons. Le mausolée a été inauguré en présence de délégations étrangères, Sénégal, Tchad, AES, mais en l'absence du capitaine Ibrahim Traoré, qui revendique régulièrement l'héritage du père de la révolution burkinabé. Le premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a lu son message.
Ce mausolée que nous inaugurons aujourd'hui sur la terre libre du Burkina Faso n'est pas une simple bâtisse. C'est un lieu de mémoire qui rappelle à la conscience collective des Burkinabés, des combattants de la liberté et de tous les hommes épris de paix et de justice sociale, le sacrifice du président Thomas Sankara et de ses compagnons.
Avant la cérémonie, la délégation sénégalaise a échangé avec des membres du gouvernement burkinabé. Dakar ou Ouagadougou se rejoignent sur l'affirmation de leur souveraineté. Ousmane Sonko plaide donc pour une redynamisation de leur coopération.
Cette dynamique qui est déclenchée au Burkina, qui est déclenchée au Sénégal et certainement dans d'autres pays, doit être renforcée par la collaboration, l'échange d'expériences et également d'informations. Nous sommes confrontés à 2 défis, le défi sécuritaire et le défi économique. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous allons relever ces défis en maximisant sur nos convergences plutôt que sur les quelques aspects sur lesquels chacun peut avoir une démarche qui lui soit particulière.
On ne sait pas, en revanche, si Ousmane Sonko a évoqué le cas de son avocat, Maître Guy Hervé Kam, emprisonné depuis plus d'un an au Burkina Faso.
Précision signée, Esdras Dikoumena. L'actualité africaine, c'est aussi la Libye. 2e soir consécutif de manifestations, des centaines de personnes ont réclamé la démission du Premier ministre Abdelhamid Beba, déjà fragilisé par la démission de 6 de ses ministres. Abdelhamid Beba qui a pris la parole hier soir pour appeler les groupes armés à rejoindre les institutions de l'État.
C'est une attaque terroriste aux États-Unis selon le FBI.
Après cette explosion qui a fait 1 mort, cela s'est passé à Palm Springs en Californie, devant une clinique spécialisée dans la procréation médicalement assistée. Le bureau local de la police fédérale a ajouté qu'il pensait que l'établissement était délibérément visé. Et puis Julien, à New York cette fois, ces images terrible, un voilier mexicain qui a heurté le pont de Brooklyn. Accident qui a fait 2 morts. Les 3 mâts du navire se sont brisés contre ce monument new-yorkais.
Toujours aux États-Unis, situation ubuesque en Géorgie.
Où les lois anti-avortement de cet État conservateur font vivre un vrai cauchemar à toute une famille. Famille qui n'a pas son mot à dire alors qu'une de leurs proches est en état de mort cérébrale. Elle est maintenue artificiellement en vie car elle est enceinte. Une affaire qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis et qui relance le débat sur le droit à l'avortement. 3 ans après la décision de la Cour suprême qui avait en 2022 laissé les États libres d'interdire ou non l'IVG. Correspondance Loubna Naki.
Cette décision aurait dû nous revenir, dénonce la mère d'Adriana Smith devant les caméras des chaînes américaines. Depuis plusieurs mois, elle se bat contre l'établissement où est hospitalisée sa fille dans l'État de Géorgie. Adriana Smith a été déclarée en état de mort cérébrale il y a 3 mois après un grave problème de santé et selon ses proches, après une possible erreur médicale. Mais depuis, elle est maintenue en vie artificiellement car elle est enceinte. Les médecins justifient leur décision par la loi anti-avortement en vigueur dans l'État de Géorgie, une loi baptisée « battement du cœur » qui interdit les avortements à partir du moment où une activité cardiaque est détectée dans le fœtus. Certaines associations locales dénoncent une mauvaise interprétation du texte, d'autres pensent que les médecins agissent ainsi par crainte d'être poursuivis en justice. Le bureau du procureur général de Géorgie a publié un communiqué expliquant, je cite, que rien dans le texte de loi ne dit qu'il faut maintenir en vie une femme qui est en état de mort cérébrale et que la laisser mourir n'est pas en soi un acte d'avortement. Malgré ces déclarations, Adriana Smith, qui est déjà maman d'un petit garçon, est pour le moment toujours maintenue en vie artificiellement afin de mener sa grossesse à terme. Loubna Naki, New York, RFI.
Et puis on termine, Martin, ce journal à Rome, la capitale italienne, affiche complet.
Rome, noir de monde ce dimanche pour la première grande messe de Léon XIV. Des dizaines de milliers de fidèles attendent du place Saint-Pierre, notamment de nombreux Américains. Robert Francis Prévost est le premier pape venu des États-Unis. Il devrait apercevoir de nombreux compatriotes munis de la bannière étoilée. Des Américains qui boostent le secteur du tourisme en Italie. Ils étaient plus de 4 millions de touristes américains à avoir visité la grande pote, la grande botte l'an dernier. Des Américains fans de la Dolce Vita, Anne Lenir.
Le président pour la région du Latium de Federalberghi, la fédération des hôteliers italiens, Walter Pecoraro, propriétaire de l'hôtel 4 étoiles Cosmopolita, qui offre une vue fabuleuse, notamment sur la coupole de Saint-Pierre, nous explique pourquoi Léon XIV va attirer de nombreux Américains et galvaniser le tourisme de luxe.
L'esprit nationaliste des Américains les poussera à venir à Rome pour Léon XIV et ils ont une capacité de dépense qui apportera beaucoup à toute la filière commerciale.
En cette année sainte, environ 22 millions de fidèles et touristes étrangers sont attendus en Italie, mais les groupes de pèlerins n'ont rien à voir avec l'élite américaine, confirme Walter Pecoraro.
Les jubilés n'ont jamais eu d'influence sur le chiffre d'affaires des hôtels d'un certain niveau.
Parmi les clients américains de cet hôtel de charme, on perçoit avant tout l'envie de voir le nouveau pape de la même nationalité.
Je suis vraiment enchantée d'être ici.
C'est génial d'avoir un pape américain. Il est de Chicago et je suis de Chicago. Je me sens très fier.
À la veille de la cérémonie du début de pontificat de Léon XIV, comme d'autres établissements, l'hôtel Cosmopolita n'a plus une chambre disponible et Rome fourmille de gens du monde entier. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et les premiers pas publics de Léon XIV sont attendus dans la matinée. Ils seront annoncés par le tintement des cloches de la basilique Saint-Pierre, à Rome comme à Paris. Il est 7h13.
Merci Martin Guèze. Dimanche 18 mai 2025, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information et 2 élections à la une. La présidentielle en Roumanie et la possible victoire de l'extrême droite. Et la Pologne, où le parti ultra-conservateur et nationaliste PiS va tenter de garder la présidence pour bloquer l'action du gouvernement de Donald Tusk, qu'on appelle notre envoyé spécial Daniel Valo à Varsovie à 6h, temps universel. L'actualité ce matin, c'est aussi les appels internationaux qui se multiplient pour dénoncer et tenter d'empêcher la nouvelle offensive terrestre et l'invasion de la bande de Gaza par Israël. L'entreprise Microsoft mise en cause dans ce contexte pour ses contrats avec l'armée israélienne. On en parle dans moins d'une heure. À suivre d'ici là notamment un œil vers le Liban dans quelques minutes avec Fouad Khoury Elou, le directeur du journal L'Orient Le Jour, signe notre livre international cette semaine. RFI Matin, nous sommes ensemble jusqu'à 8h, temps universel. Et on en parlait à l'instant, ils seront des dizaines de milliers, place Saint-Pierre, dans les rues de Rome, comme il l'était le 8 mai lorsqu'il s'est présenté au monde. Ce dimanche, des fidèles du monde entier se préparent à assister à la messe inaugurale du pontificat du pape Léon XIV. Des dirigeants étrangers seront aussi présents, notamment J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, pays d'origine du souverain pontife. Mais on l'a dit, si Léon XIV est américain, il est aussi très officiellement péruvien. C'est au Pérou qu'il a passé une grande partie de sa vie. Il en à la nationalité. Et cette messe inaugurale sera notamment suivie là où il fut autrefois évêque, le diocèse de Chiclayo, dans le nord du Pérou, où celui qu'on appelait encore Robert Francis Prévost il y a 10 jours est très apprécié. Reportage sur place de notre correspondant Martin Chabal.
Tout le monde connaissait le père Robert à Chiclayo. Celle qui était connue comme la ville de l'amitié est maintenant rebaptisée la ville du pape Léon XIV. Impossible de passer à côté de cette information, son visage a été affiché partout. À Chiclayo, chacun a son souvenir avec celui qui est désormais pape. Nino Onofre se rappelle des moments passés à l'église.
Je l'ai rencontré juste ici. Il donnait la bénédiction après la messe. Nous nous approchions tous de lui pour recevoir sa bénédiction. Chiclayo est une ville très catholique.
Rocio, elle, est venue avec des photos devant cette grande cathédrale couleur pastel construite d'après les plans et les dessins de Gustave Eiffel.
Regarde, là, tu as maman, et là, c'est le pape. Sur celle-là, il y a ses petits-enfants, ça c'est mon fils, à côté du pape.
En 10 ans, Robert Francis Prévost aura marqué les esprits ici. Tous se souviennent d'un homme proche de ses fidèles et humble. Pour Nino Onofre, Chiclayo a profondément marqué le pape et en a fait l'homme qu'il est aujourd'hui.
Ici, on dit que le peuple de Chiclayo a 3 caractéristiques. Déjà, il est très aimable, généreux et joyeux, comme le pape. La deuxième chose, c'est notre cuisine, ancestrale et délicieuse. Et enfin, notre culture.
Les Péruviens sont très fiers de leur gastronomie et tous les Chiclayanos ont une anecdote culinaire avec le pape. Si certains ont partagé leur pain avec lui dans son restaurant préféré à côté de la cathédrale, Nino se souvient de son petit péché mignon.
Le pape allait souvent manger un gâteau à la poire à la plage. Maintenant, il l'appelle le gâteau du pape. Tu vas là-bas, tu commandes ça, et tu as le gâteau à la poire préféré du pape.
Devant la cathédrale de Chiclayo, on a placardé des affiches sur Léon XIV, notamment avec son profil. Il est écrit qu'il est connu pour sa nature affable, modérée et pastorale. Il combine le pragmatisme américain avec la sensibilité latino-américaine forgée au Pérou. Et après, on parle des langues qu'il domine. Il y a bien sûr l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français, le portugais. Et il y a écrit aussi le quechua, très important ici quand on habite au Pérou.
Cette élection est vécue par certains comme une lueur d'espoir dans une situation politique nationale très compliquée. La courbe de popularité de la présidente Dina Boluarte frôle les 0% dans tout le Pérou. Antonio, venu célébrer Léon XIV dans une messe en plein air en l'honneur du souverain pontife, espère que ça pourra faire changer les choses.
Il connaît notre réalité. Il a déjà critiqué l'ex-président Fujimori. Il a soutenu les manifestations contre le gouvernement. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle.
Parmi la foule réunie sur la place principale de Chiclayo, quelques fidèles se permettent de croire en une visite du pape dans son diocèse d'origine. Et un voyage pontifical avant l'élection présidentielle prévue l'an prochain pourrait influencer les sondages. Martin Chabal, Lima, RFI.
Notre reportage international au Pérou à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
RFI Matin.
L'actualité politique en France comme chaque dimanche, et alors que ce week-end, les adhérents du parti Les Républicains à droite se choisissent un président, on regarde un peu plus loin dans le temps, et à gauche, dans 9 jours, les socialistes commenceront à choisir leur nouveau dirigeant avec comme point d'orgue le congrès de Nancy mi-juin, quelques jours après la désignation du premier secrétaire. Le choix des socialistes pourrait être déterminant dans une éventuelle union de la gauche pour la prochaine présidentielle. Bonjour Aurélien Devernois.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Les 3 candidats, le sortant Olivier Faure, Boris Vallaud et Nicolas Maillard-Rossignol, semblent alignés en faveur d'une candidature commune en 2027, mais ça, c'est sur le papier.
En effet, tout le monde au PS semble désormais d'accord, il faut une union de la gauche en 2027, sans les insoumis. Après avoir longtemps défendu le rapprochement avec LFI, Olivier Faure a finalement rendu les armes ces derniers mois. pour ne pas perdre son poste, persifle une de ses opposantes internes. Le nouveau périmètre va donc de la gauche radicale façon François Ruffin aux sociaux-démocrates de Raphaël Glucksmann, voire à la maigre aile gauche de la Macronie en passant par les alliés écologistes et communistes. Consensus aussi sur l'espoir que le candidat commun en 2027 soit issu des rangs socialistes, mais la stratégie pour y arriver en revanche diffère.
Il y a les partisans du jeu ouvert et ceux qui prônent le passage en force.
Exactement, Olivier Faure par exemple reste sur la ligne qu'il tient depuis son arrivée à la tête du PS en 2018, un candidat socialiste si possible, mais pas d'opposition de principe à céder la place. En revanche, du côté de Nicolas Maillard-Rossignol et ses alliés, François Hollande, Carole Delga ou Anne Hidalgo, la prééminence socialiste est une priorité, une ligne qualifiée d'identitaire par les fauristes et qui passerait par le rassemblement sous un même drapeau de toute la galaxie socialiste aujourd'hui dispersée, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann ou certains ministres et élus macronistes.
Sauf que ça, Aurélien, beaucoup d'alliés n'en veulent pas.
Si c'est pour se faire marcher dessus comme avec les insoumis, non merci, cingle un élu communiste. Pas beaucoup plus d'enthousiasme côté écologiste, où les multiples alliances passées avec le PS n'ont pas laissé que de bons souvenirs. Beaucoup défendent donc l'idée d'une primaire très large, c'est-à-dire pas seulement avec des candidats désignés par les partis, sinon personne ne jouera le jeu, estime une ancienne insoumise. Les insoumis, justement, qui regardent cette agitation avec amusement, plus il y a de divisions au PS, mieux je me porte, rigole un député LFI. À moins qu'une position centrale émerge à l'occasion du congrès socialiste, le troisième homme de l'élection, Boris Vallaud, plaide pour une union à toute force, mais pas à tout prix, un peu flou pour certains. Tu ne pourras pas être éternellement la Suisse, a lancé cette semaine une haute dirigeante du PS au patron des députés socialistes.
Aurélien de Vernois, merci beaucoup. Et dans notre livre international, cette semaine, 234 pages pour retracer l'histoire d'un pays qu'on appelle parfois l'état failli le plus réussi du 21e siècle, le Liban. Sa culture riche et diverse, son potentiel économique, rongé pourtant depuis le 19e siècle par les violences et les dissensions. Le journal Fouad Khoury Hellou signe l'ouvrage « Liban, état de survie », un sujet qu'il connaît bien puisqu'il est directeur du grand quotidien libanais L'Orient le Jour. La situation actuelle dans la région est aussi forcément au cœur de son livre dont il nous parle au micro de Pierre Olivier.
Bonjour Fouad Khoury Hellou.
Bonjour.
Vous retracez dans votre livre l'histoire du Liban depuis le 19e siècle. Pour autant, c'est pas non plus un cours d'histoire, car le Liban est presque personnifié sous votre plume, comme s'il était le personnage principal du livre. C'était important pour vous de donner à un pays tout entier une dimension vivante.
Bien sûr, le but du livre, c'est d'expliquer cet Orient compliqué de manière simple, mais pas simpliste, en prenant le lecteur par la main. Voilà, un lecteur qui n'y connaît rien, qui regarde cette région, ce pays, qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça fait des décennies que, voilà, c'est le chaos apparent. Et donc voilà, en fait, ça fait 200 ans qu'on vit la même crise, avec des pointes tous les 25 ans, 30 ans. Voilà, on casse tout et on recommence. Et la raison, le mécanisme, il est assez simple, hein, c'est des divisions internes entre des communautés qui s'appellent chrétiens, sunnites, chiites ou autres. Et donc ça donne des divisions internes d'un côté et de l'autre, il y a à l'extérieur des appétits de puissance régionale et internationale. Les Turcs, les Anglais, les Français, les Américains, les Soviétiques, les Iraniens, les Syriens et j'en passe.
Et Fouad Khoury Hellou, justement, ça résonne particulièrement tout ce que vous décrivez avec le contexte actuel dans la région, au Proche-Orient. Est-ce qu'on peut dire que finalement le Liban est presque un mini Proche-Orient?
Oui, c'est un concentré de ce qui se passe dans la région. D'ailleurs, on a parlé de la libanisation. C'est un concept qui a émergé avec la guerre du Liban.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la libanisation?
La libanisation, ce sont des pays dans lesquels il y a une sorte de chaos interne sur fond de dissension, en général confessionnelle ou ethnique, et ça donne des états difficiles à gérer. D'ailleurs, je commence le livre en disant, le Liban, c'est l'état failli le plus réussi du 21e siècle. En attendant, vous avez d'autres pays de la région, plein de pays, la Syrie, l'Irak, le Yémen, je parle même pas des territoires palestiniens, où c'est encore une autre problématique très douloureuse. Mais la Libye, le Soudan, etc. Donc beaucoup de pays de la région, surtout des pays arabes, se sont effondrés, en particulier depuis le printemps arabe, et donc se sont libanisés quelque part.
Et à l'inverse, est-ce que ces conflits au Proche-Orient ont une répercussion aussi sur le Liban et l'empêchent d'avancer.
Absolument. Il est clair d'abord que ce qui se passe en Syrie va avoir sur nous une incidence majeure, parce que le Liban et la Syrie sont deux pays très très proches. Entre Beyrouth et la frontière syrienne, il y a 50 kilomètres. Et la Syrie fait 20 fois la taille du Liban. Et puis nous avons au Liban 2 millions de réfugiés syriens pour une population de 3 millions et demi. Donc c'est comme si en France vous aviez 30 ou 40 millions de réfugiés espagnols ou allemands ou italiens sur le territoire français. Donc c'est majeur. Il faut absolument pas que la Syrie s'effondre, c'est évident. Mais derrière, il y a le conflit israélo-palestinien, et si ce conflit-là continue de s'enflammer, il ne peut que déstabiliser tous les pays alentours, y compris le Liban. Le Liban, ça fait 50 ans que la frontière israélo-libanaise s'enflamme pour des raisons qui sont très liées au conflit israélo-arabe.
Et alors, vous venez de dire 50 ans, mais quand on lit votre livre, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on a l'impression que depuis 200 ans, en fait, le Liban ne s'en sort pas. Est-ce que, malgré tout, vous voyez dans les années, décennies qui viennent, une lueur d'espoir pour le Liban ?
Je crois qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est que nous avons absolument besoin du soutien de la communauté internationale. Et pour nous, la communauté internationale, ce n'est pas un vain mot. Malgré tout, le soutien de la France et des États-Unis, tout d'abord, puis des États du Golfe derrière, au niveau financier, ce soutien-là est déterminant pour que le Liban et la Syrie ne s'effondrent pas. Le Liban et la Syrie, c'est le petit grain de sable qui peut faire exploser tout le Moyen-Orient en morceaux, et si c'est le cas, il deviendra ingérable.
Fouad Courrielou, un message à faire passer à la jeunesse libanaise. Quelle serait, d'après vous, l'erreur principale à ne pas refaire pour assurer un avenir plus radieux au Liban ?
Il faut absolument éviter les divisions et avoir un esprit et un sens citoyen. La partition du Liban, c'est le mal absolu, et si elle se produit, tous les Libanais en paieront un prix exorbitant, et les minorités tout d'abord. L'analyse est très claire sur ça. Donc il faut absolument construire un sens citoyen, et j'appelle les jeunes à le faire. Il faut nous agripper à cette citoyenneté libanaise qui est le bien le plus précieux que nous ayons.
Merci beaucoup Fouad Courrielou.
Fouad Courrielou, directeur de L'Orient le Jour et auteur de l'ouvrage « Liban, état de survie » au micro de Pierre Olivier. Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Pourquoi se mettre à l'écoute de la biodiversité ? Un réseau mondial de bioacousticiens a décidé d'ouvrir et de mutualiser les données sonores qu'ils ont enregistrées dans les différents écosystèmes terrestres ou maritimes de la planète, afin d'évaluer l'état et l'évolution de la biodiversité à l'oreille.
Oui, on appelle cela le suivi acoustique passif, qui consiste à recueillir, à capter les sons des animaux, le paysage sonore, sur une longue durée, dans une très grande variété d'environnements, via des enregistreurs acoustiques. Très utilisé pour suivre le comportement et la répartition des différentes populations animales, que ce soit des insectes, des poissons, des oiseaux ou des mammifères, ce suivi acoustique se révèle aussi particulièrement utile pour mesurer l'état de santé générale d'un écosystème, le déclin ou l'évolution de sa biodiversité, notamment en lien avec le changement climatique. D'où l'intérêt de ce nouveau réseau mondial World Wide Soundscapes, paysage sonore du monde entier, qui regroupe 350 chercheurs en bioacoustique de 57 pays différents, des océanographes comme des écologues terrestres ou d'eau douce, et même des biospéléologues, un partage de données sonores aussi originales qu'inouïes, qui permettent donc de construire un vrai réseau mondial de surveillance acoustique de la biodiversité, mais aussi de partager, parce que c'est en libre accès avec tous. Par exemple, écoutez voir cet échange entre une mère et son petit phoque de Vandel en Terre Adélie, dans l'Antarctique. Petit phoque et sa maman, si vous êtes plus électro, je vous propose d'écouter une cigale taille. Et si vous ne craignez pas les décibels, je vous renvoie sur un chœur, ou plus exactement, une véritable orgie de grenouilles en Guyane.
Impressionnant, Caroline, combien d'enregistrements sur cette banque de données bioacoustiques ?
plus de 400 jeux de données sonores ont été rassemblés sur cette base de données unique en accès libre, ouvert à tous les chercheurs et chercheuses qui peuvent ainsi accéder à des habitats, à des écosystèmes sous-explorés ou méconnus, enregistrés dans plus de 12 000 sites différents. Terrestres, marins, d'eau douce ou même souterrains, aussi bien dans des zones tropicales que tempérées ou polaires. Une synthèse sur ce nouveau réseau mondial de données sonores vient d'être publiée dans la revue Global Ecology and Biogeography. Elle démontre l'importance de cette mutualisation, de ces collaborations internationales pour affronter les défis et les enjeux qui nous attendent autour du déclin de la biodiversité et du changement climatique. On peut noter que ce réseau mondial de données bioacoustiques est coordonné par l'INRAE, l'Institut National d'Agriculture et d'Écologie, avec l'implication de chercheurs et chercheuses du CNRS, de l'IRD et du Muséum National d'Histoire Naturelle côté français, car la bioacoustique est une discipline qui se développe en France grâce à des chercheurs qui savent ouvrir grandes leurs oreilles et leurs micros pour se mettre à l'écoute du vivant dans sa biodiversité sonore et même à l'écoute des sons de la terre que l'on n'aurait pas imaginé. Allez, tiens, un petit dernier pour la route, comme ce chant des dunes de sable enregistré à Oman.
Jusqu'où va la science? Merci Caroline Lachowski.
RFI à Malabo-Ville, 88 FM. Malabo-Volcan, 97.5 FM.